pour parler de Dieu et pour parler de sa relation avec l'homme, c'est-à-dire faire une théologie au sens propre du terme, on utilise des mots humains. Et pour penser Dieu, on utilise des termes humains. Et à ce titre, Jean-Paul Ier a notamment usé des métaphores féminines et masculines pour pouvoir nommer Dieu, ce qui donne des phrases tout à fait surprenantes dans ses homélies, comme celle qu'il a prononcée en 1978 au début de son pontificat, en disant « Dieu est Père, plus encore il est Mère ».
Ce sont des images qu'il a donc développées au fur et à mesure de ses audiences générales.
Alors, ce sont des images qu'il a développées au fur et à mesure de ses discours, de ses audiences, de sa catéchèse, et sur lesquelles il revient. Et bien sûr, ces métaphores s'inscrivent dans toute une histoire de l'Église, notamment une histoire de l'Église où on va constamment comparer Dieu à un père et à une mère. Mais en même temps, il y a toute une richesse de l'Église et toute une richesse de la doctrine. Il ne faut pas oublier que la Bible est née dans un contexte de type patriarcal. Ceci explique le fait qu'on utilise des métaphores spécialement masculines. Mais en même temps, il y a comme une prévention de la Bible à dire qu'il ne faut pas féminiser Dieu, même si dans la Bible, on rencontre bien sûr tout un vocabulaire, tout un recours à des images féminines, comme par exemple la poule qui couvre ses poussins ou l'ours qui défend ses petits, pour pouvoir nommer Dieu. Et en même temps, il y a toute une prévention, c'est comme s'il y avait toute une résistance de la Bible à féminiser Dieu, bien entendu dans un contexte où le monde biblique est entouré de déesses mères. Alors, en même temps, tout ce substrat biblique va être pensé, va être digéré tout au long de l'histoire du christianisme. Et les pères de l'Église, les premiers écrivains chrétiens, vont revenir sur la comparaison entre Dieu Père et Dieu Mère. Mais à chaque fois, pour bien montrer la concomitance des rôles, Dieu ne peut pas être tout à la fois féminin et masculin, comme dans les discours gnostiques qui font leur apparition à partir du IIIe siècle.
Alors, un ouvrage vient de paraître qui recense des lettres que Albino Luciani a écrites pendant les années 70, notamment à des personnages illustres, des écrivains, des penseurs, des philosophes. C'est une phase très méconnue, finalement, et assez originale de Luciani. Est-ce que l'on retrouve justement cette poésie dans ces lettres, ces métaphores, ces images? Qu'est-ce qu'elles disent, toutes ces lettres de cet homme?
Elles montrent d'abord qu'il était un grand lettré et en même temps une attention fine portée aux mots, et notamment portée à la création poétique et littéraire. Et quelque part, cela renvoie aussi au fait qu'il était un novateur du langage, pour oser dire une phrase comme celle-ci, qui ne s'inscrit pas non plus dans une théologie féministe, là où les théologies féminines finalement reconduisent le paradoxe d'un discours qui devrait être un peu plus féminin, pour finalement compenser une naissance du discours biblique et du langage biblique dans une société de type patriarcal. Quelque part, le paradoxe, c'est que ce type de théologie reconduit l'idée qu'il faut plus de féminin là où on aurait mis plus de masculin. Jean-Paul Ier va ailleurs. Il dit que la construction du discours théologique, elle est dans la création, dans l'audace d'un langage neuf, mais un langage neuf qui ne fait pas de Dieu une totalité.
La devise de Jean-Paul Ier, c'était « humilitas », l'humilité. En quoi, justement, les écrits qu'il a laissés, les textes qu'il a laissés montrent cette humilité?
Je répondrai simplement, tout le monde peut les comprendre.